Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Un petit air rétro aujourd'hui dans VMDN. Des amoureux qui s'embrassent sous le ciel de Paris à une terrasse de café, se disent adieu sur le quai d'une gare dans les années 30, ou qui sont dans les fauteuils moelleux d'un cinéma italien des années 50. C'est un moment de Dolce Vita que nous offre notre invité, le ténor Marco Angeloni, accompagné de l'ensemble Contraste et de quelques amis dont les voix s'accordent au répertoire lyrique, au jazz, au mambo ou à l'univers de la comédie musicale. Dolce Vita, c'est le nom de son nouvel album. Il est disponible chez Glossa. Et vous m'en direz des nouvelles.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Prende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Tutta la mia vita sei tu.
Bonjour Marco Angeloni.
Bonjour, merci pour m'inviter ici.
Merci d'être avec nous. C'est en parlant d'amour, hein, par l'ami d'Amore Mario, d'Ennio Neri et Cesare Antonio Biccio que vous nous accueillez dans cet album. Un Italien qui parle d'amour, c'est presque un pléonasme.
Tout à fait. Ce n'est pas forcément très original, mais ça nous ressemble beaucoup, tout aussi comme à la France, bien sûr.
Oui, alors justement, certains disent l'italien, c'est la langue de l'amour. D'autres disent c'est le français, la langue de l'amour. Quel est votre sentiment?
Moi, je dirais absolument les deux. D'ailleurs, ce sont des langues latines, comme on sait, et ce sont des langues qui, en tout cas pour moi, sont l'une et l'autre, parlent d'amour, et l'une autant que l'autre. Je pense que ce programme le montre assez, en tout cas.
Bon, mais vous préférez dire spontanément « ti amo » ou « je t'aime » ?
Ça dépend avec qui je parle, oui. Effectivement. Mais vous savez, j'habite quand même en France depuis une douzaine d'années maintenant. Il est vrai qu'il est, on va dire pour récurrent, que j'utilise plus « je t'aime » que « ti amo ». Je trouve que l'expression « je t'aime » en italien « ti amo » ou « je t'aime bien » ou « beaucoup » en italien, c'est « ti voglio bene » et elle a un peu plus de, on va dire, nuance, puisqu'on a plus de la différence du bien que l'on veut à l'autre, si vous voulez. Mais bon, cela dépend bien sûr du quotidien que nous avons devant nous, donc souvent je le dis quand même en français.
Alors vous êtes né à Arezzo, en Toscane, et donc vous êtes venu en France. Et cet album, c'est une sorte de pont musical entre les deux pays, entre la France et l'Italie. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes venu en France ? C'était un vrai choix ?
Oui, je dirais ça parce que, en fait, à ce moment-là, j'ai été admis dans deux écoles. J'étais oboïste professionnel et je voulais me perfectionner en hautbois. Et en fait, j'ai fait une rencontre l'année de mon diplôme à Florence avec celle qui a été ma première prof de hautbois à l'époque, qui était Nora Sismondi, à l'époque premier hautbois dans l'Orchestre national de France. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait une place dans sa classe. J'ai auditionné, j'ai été pris et voilà, de là tout s'est enchaîné. Je suis restée, bien sûr, j'ai adoré cette ville et c'est sûr que j'ai toujours eu un lien particulier dans cette ville. Mes parents étaient très fans, on l'avait visité plusieurs fois petit. Donc,
alors qu'est-ce que l'Italie et la France ont en commun pour vous et qu'est-ce qui les différencie fondamentalement, Marco Angeloni ?
Magnifique question. Plein de choses, je dirais, parce que déjà la Dolce Vita, l'art de vivre, pour moi, c'est. Elle est la même, en fait, la vie de pour la table, enfin l'amour pour la table, pour la nourriture, la grande cuisine, les grands vins, la beauté, la nature, tout cela nous ressemble énormément. Et aussi, je dirais, une manière de vivre voilà, des coutumes qui sont quand même très, très similaires, malgré les uns et les autres. En rentrant en Italie, je me prends des fois des réflexions. Ah, maintenant, t'es français. Ici, je suis italien. Donc, je veux dire, des fois, on souhaite toujours faire des différences. Il y en a, bien entendu, mais nous sommes plus proches de ce que l'on pense, je pense.
Bon, plutôt pasta ou plutôt steak frites?
Pasta.
Plutôt roquefort ou plutôt gorgonzola?
Gorgonzola.
Ok. Plutôt vin italien ou plutôt vin français? Ah, c'est peut-être plus compliqué, là.
Vin français.
Ah, très bien. Donc, voilà. Plutôt bel canto ou plutôt chanson française?
Bel canto, bien sûr. Sans hésiter.
Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé?
Remarquez, ça ne fait que 15 jours.
Évidemment, 15 jours, ce n'est pas très long.
Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir.
Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment.
En effet, il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche.
Et puis, je vous ai acheté deux livres.
Oh, le premier, c'est La vie des saints.
Et l'autre, c'est l'exemplaire de la bienheureuse Ernestine. Cela vous plaît?
Puisque je m'en vais en voyage, je vous ai promis, mon chéri,
puisque vous partez en voyage, parole de Jean Noin, musique de Mireille. C'est un vrai tube hein, de la chanson française,
absolument.
Marc Angeloni. Chanson qui a été reprise par de très nombreux interprètes. Hein, Sablon, Brassens, Françoise Hardy et Dutronc, on s'en souvient. Et là, c'est la mezzo-soprane Karine Dehaye qui vous accompagne. Je crois que vous avez suivi une de ses masterclass, c'est vrai?
Tout à fait. Je l'ai rencontrée en 2018, il me semble, avec Opéra Foucault, dont je suis issu de la quatrième génération de l'Opéra Studio. Et en fait, c'était un coup de cœur. Évidemment, je la connaissais bien avant, j'étais un immense fan. Mais sa générosité, sa compétence et sa bienveillance ont été pour moi, sincèrement, je lui ai dit plein de fois, je ne sais pas si elle me croit, mais je n'hésiterai pas à le redire. C'était pour moi la masterclass la plus intéressante parce qu'en vrai, c'est très concret, c'était très clair, c'était super, vraiment. Et j'en ai vu quand même, j'ai vu Inga Moula, plein de grands chanteurs, Barbara Bonnet, tout ça, mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc, je recommande pour tout jeune chanteur.
Voilà, Karine Dehaye. Alors, avant de chanter, elle a commencé par le violon, Karine Dehaye. Et vous avez donc commencé par le hautbois. Pourquoi le hautbois?
Bah écoutez, en vrai, mon instrument au départ, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, je vous confirme, et j'avais choisi le violoncelle. Mais
le violoncelle dont on dit que c'est l'instrument de musique qui se rapproche le plus de la voix humaine.
Absolument, bravo, et pour la voix humaine masculine, et vous savez lequel serait l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine féminine? Le hautbois.
Le hautbois. Ah, comme c'est intéressant pour un ténor.
Absolument, n'est-ce pas? Bon, évidemment, à ce moment-là, on aurait pu croire que du coup, j'aurais pu faire des études au contre-ténor, mais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'était un peu le hasard, parce qu'il n'y avait plus de place en violoncelle. Et en fait, on m'a dit, il reste des places en hautbois. Je vous avoue que j'ai même regardé dans le dictionnaire à l'époque, parce que j'avais 10 ans et je n'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre. C'est un instrument d'une beauté, vraiment, c'est très charmant. Le prof était génial. Et donc, cela a fait que je termine toutes mes études dans ça. Et voilà. Donc finalement, aujourd'hui, j'en joue plus, évidemment, mais ça reste une super partie de mon passé.
Mais vous êtes issu d'une famille de musiciens ?
Pas du tout. Dans ma famille, on écoute beaucoup de musique, mais de tout genre d'ailleurs, de l'opéra comme autre chose. Mais j'ai aucune personne qui est musicien. Juste ma grand-mère chantait beaucoup, beaucoup à la maison. Elle faisait des petits concerts accompagnés au piano, mais juste en amateur. Et je pense que, je ne sais pas, mais ma mère nous a toujours laissé une sorte d'amour pour ça. Peut-être qui est devenu une vocation au moins, d'une certaine manière.
Comment avez-vous compris, Marco Angeloni, que votre instrument, ce ne serait plus à un certain moment le hautbois, mais votre voix ?
Je pense que je l'ai compris assez tôt, parce que je chantais tout le temps, depuis tout petit. Et le hautbois, c'est juste, c'était le moyen le plus concret qui m'a été mis en main. Et du coup, comme ça me plaisait, très vite, j'ai pu m'accomplir. Mais au moment où j'ai pu commencer des études en chant, où je pouvais, vers les 20 ans, en fait, si vous voulez, je savais déjà que j'aurais aimé chanter. C'est juste que, ayant déjà un passé hautbois, je faisais déjà des remplacements dans des orchestres italiens professionnels, des scènes nationales. Il était un peu compliqué vis-à-vis de mes parents de tout de suite, à ce moment-là, je me rappelle, ils me disaient « Ah oui, mais maintenant tu veux chanter, après tu voudras jouer de la flûte, après tu voudras jouer du clavecin. » Et en fait, c'était un peu le fait d'être loin en France que j'ai pu un peu assumer ça et les inviter à mes débuts, on va dire.
Mais est-ce que votre expérience d'oboïste a influé sur votre façon de chanter ? Il y a un lien ou pas ?
Absolument, je dirais, parce que j'ai toujours eu énormément de facilité dans le souffle, par exemple. Donc, ça fait quand même qu'il y a des parties vraiment de la caisse thoracique qui sont entraînées. Et aussi dans la justesse, évidemment, dans la manière dans le phrasé, par exemple. C'est ce qu'on me dit beaucoup, que j'ai un phrasé très clair et c'est sûr que ça a dû beaucoup aider, bien sûr.
Alors, vous êtes entré au Centre de musique baroque de Versailles après votre expérience au conservatoire de Cergy-Pontoise. Pourquoi cette bifurcation vers le baroque ?
Parce que finalement, comme je vous disais, j'ai commencé assez tard, parce que c'était quand même, je ne me rappelle plus l'année, mais j'avais déjà plus de 20 ans, 23 ans il me semble. Et en fait, il fallait choisir une école qui soit tout de suite assez professionnalisante. Et comme j'étais très fan de la musique baroque, je me suis dit, je vais rentrer là, ça sera très bien. Et au final, j'ai passé 2 ans et ça m'a quand même ouvert des portes, notamment dans de répertoire que je fais quand même aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, vous faites vos débuts sur scène en 2013, hein, dans Lucia di la mia mort de Donizetti. Petit rôle, mais j'imagine quand même que c'est un moment marquant. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ce premier passage sur une scène ?
Écoutez, je vous faites bien de demander, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Je n'y croyais pas, même quand j'étais sur scène, j'avais l'impression de vivre un rêve. Surtout que mes parents ne savaient pas que j'allais chanter.
Ils étaient là dans la salle
et ils avaient fait voyage, bien sûr, depuis l'Italie. Et en fait, c'était vraiment une sorte de coming out vocal et il y a eu un pot après. C'était une soirée magique et une production magnifique. Il y avait 8 dates de ça. Donc, presque, d'ailleurs, les conditions étaient très correctes. J'ose dire, même pour un si petit rôle, aujourd'hui, j'en demanderais des cachets comme ça. Et donc, c'est pour dire que, voilà, c'est un souvenir indélébile vraiment qui reste dans mon cœur à vie, je pense.
Se stanotte sei bella in un manto di stelle che in cielo risplendono tremule come fiammelle nell'ombra nascosta si parlan d'amor. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia sospira il mio cuor. Sull'arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro incanto si perde lontan. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e glicini in fiore, stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliano le serenate, Madonna ascoltate, son mille canzon. Un vostro sorriso è la vita, la gioia infinita, l'eterna passione. L'arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontan.
Firenze Sonia, qu'on peut traduire par Florence Rêve, hein, c'est bien
absolument.
Ça, Marco Angeloni. Alors, vous êtes toscan, donc Florence, vous connaissez.
Oui, très très bien, absolument. J'ai fait 3 ans d'études, mon oncle y habite encore aujourd'hui, et c'est la grande ville de Toscane. J'y ai passé plein de soirées inoubliables également, et bien sûr, même si je viens d'une ville juste à côté, un peu plus à l'est, au sud-est, Arezzo.
Voilà, et c'est vrai que quand on vous écoute, on a vraiment l'impression de nous balader justement dans les rues de Firenze. Merci. Et de Florence. C'est un morceau écrit et composé par Cesare Cesarini en 1939. Il figure dans la première partie de votre album, à celle que vous avez voulu consacrer aux années 30. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces années-là ?
En fait, principalement, c'est un répertoire qui, à la base, vous savez, l'opéra était un genre qui était très populaire. C'était le genre, la musique pop, en fait, jusqu'à l'époque, jusqu'au XXe siècle. Et donc, ce répertoire, on est la preuve. C'est un répertoire qui était chanté par des chanteurs lyriques très connus, même des fois créés par Beniamino Gigli, tout ça, Caruso même, ou également par des chanteurs plus de musique populaire, ou même du début, ce qu'on peut appeler variété. Donc, mais d'ailleurs, la base de la recherche d'une technique vocale, en fait, et même d'une vocalité, était globalement assez similaire parmi tous ces chanteurs et genres. Non, vraiment, l'intérêt, entre autres, bien sûr, c'est un élément qui est lié aussi à mes origines, tout ça, mais c'est aussi de montrer que jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'opéra et la musique populaire étaient vraiment non seulement chantés par souvent le même genre de chanteurs, mais aussi vient du même endroit.
Oui, et c'est vrai que le choix des titres de cet album, et donc le montre aussi, quoi. Il y a de la chanson populaire.
Absolument.
Française et italienne, il y a de l'opérette, il y a de la comédie musicale, il y a du jazz. Vous revendiquez complètement cette diversité-là, parce que pendant très très longtemps, les chanteurs lyriques ont été assez frileux, et en fait, depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, ils sont vraiment enclins à arpenter comme ça des territoires très, très populaires, et pas seulement de musique savante.
Oui, déjà, je pense qu'on en sent le besoin, du point de vue aussi pour amener peut-être des nouveaux publics, mais dans ce cas spécifique de cet album, c'est à nouveau pour montrer que vraiment c'était un répertoire que même tous les grands chanteurs classiques, Pavarotti ou Gigli, Corelli, ont aussi chanté, des grandes cantatrice. Et en fait, on a l'impression des fois de dépuriser, pardonnez-moi le mot, le répertoire classique. En vrai, au contraire, ça en est aussi la richesse, puisque l'origine est quand même très similaire.
Qu'est-ce que vous chantez dans votre salle de bain, Marco Angeloni?
Le répertoire est très varié, si vous voulez. En ce moment, pas mal de musique de cet album, bien sûr. Mais ça peut être des chansons aussi populaires, comme un Volare, par exemple. C'est beaucoup, sinon, de bel canto aussi, parce que, bien sûr, voilà, on s'entraîne aussi. Et aussi, par exemple, du Lucio Battisti, de la musique que j'ai entendue dans mon enfance, que mes parents écoutaient beaucoup. Voilà, aujourd'hui, je vous avoue, je ne sais pas si j'oserais faire un album de ça. Quand même pas pour l'instant. Mais voilà, c'est très varié, ça dépend bien sûr des humeurs, des envies, voilà.
Bon, moi quand j'étais gamin, il m'est arrivé de chanter Le Chanteur de Mexico, mais ah, pas bah, pour voilà. Cela.
Je me souviendrai d'Acapulco et j'entendrai comme un écho cette musique. Et sous d'autres cieux, loin du paradis que l'on trouve ici, je regretterai la volupté, l'enchantement des nuits d'été pacifique, tous les jours heureux dont le souvenir ne saurait mourir. Quand la chanson du vent se mêle doucement au bruit de l'océan, de ces deux mélodies naît une symphonie que jamais l'on oublie. Je me souviendrai d'Acapulco et convoquerai à mon bateau loin du Mexique. Je n'aurai bientôt plus qu'un seul désir, c'est d'y revenir. Pays, pays d'amour, depuis le premier jour, j'ai retrouvé par toi le bonheur et la joie. Je me souviendrai d'Acapulco et convoquerai mon bateau loin du Mexique.
Acapulco tiré du Chanteur de Mexico. Quand on a une voix de bel canto comme vous, Marco Angeloni, chanter du Francis Lopez, est-ce que ça repose ?
Écoutez, oui, déjà, on va dire musicalement, parce que on recherche d'autres choses. Mais sinon, je trouve que, comme je vous disais peut-être tout à l'heure, mais j'essaie de garder de manière générale la même émission et le même engagement vocal. Donc, au final, je dirais surtout que ça amuse et ça épanouit différemment, en fait.
Alors, il y a aussi sur votre album, Quand on est deux amis, un autre air très célèbre de la même opérette de Francis Lopez, faire sien un morceau qui a été interprété par beaucoup d'autres, lui donner un style, une personnalité particulière à vous, c'est un exercice que font tous les chanteurs lyriques, finalement, notamment sur scène. Comment on fait pour s'approprier un personnage, pour s'approprier des mots et des notes et en faire vraiment quelque chose de différent ?
Je pense qu'il faut se raconter son histoire, mettre les mots avec les gens qui nous entourent et qui participent à cette histoire, pour ensuite, quand on le chante, voir, avoir les images de ce déroulement, de ce film, d'une certaine manière. Évidemment, dans ce cas de ce duo, choisir aussi son partenaire, son invité, pour que cela puisse se faire avec plein de souvenirs ensemble. Et c'était le cas avec Juan Carlos Echeverri, qui chantait dans mes débuts opératiques en 2013 au Théâtre des Louvrets, dont Lucien Lamémo chantait le rôle principal de ténor, et qui donc voilà, est depuis l'un de mes meilleurs amis.
Alors, c'est l'ensemble Contraste, hein, qui vous accompagne, puisqu'on parle parler de votre entourage sur ce disque. C'est Joanne Fargeau qui signe les arrangements. Vous pouvez nous présenter cette formation en quelques mots?
Oui, en fait, c'est un ensemble à géométrie variable dont les fondateurs sont Arnaud Torette, altiste, et Joanne Fargeau, pianiste. Et en fait, c'est pour moi une référence en termes de ce genre de répertoire, entre autres crossover. Je les ai découverts dans le magasin, à l'époque, il y avait encore le Virgin Megastore en 2011 sur les Champs-Élysées. J'ai acheté leur album Songs et depuis, j'ai tellement aimé, en parenthèse, il y a Karine Dey qui chante un magnifique Somewhere Over the Rainbow ou Sandrine Pio qui chante un magnifique Memory from Cats. Je recommande. Et en fait, je me suis juré un jour, j'aurais rêvé d'enregistrer avec eux. Et en fait, en créant ce projet, évidemment, je me suis dit que sans eux, c'était qu'avec eux qu'il aurait pu se faire. Et la preuve, les arrangements magnifiques de Joanne Fargeau et les talents exceptionnels de tous les autres artistes en sont la preuve.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là. C'est magnifique, but when one day your loved one drifts away, oh là là là. It is so tragique, but when once more you whisper, je t'adore, c'est magnifique.
Avere due cuori per fare un solo amore. Ma è magnifico. Su questo cielo, a Paris, i baci sono così magnifici.
Avere due cuori per fare un solo amore, la la la. Ma è magnifico. Su questo cielo, i baci sono così magnifici.
C'est magnifique, hein, ça on l'a reconnu tout de suite avec votre voix, la voix de notre invité, le ténor Marco Angeloni sur RFI, extrait de la comédie musicale Cancan, un air signé Cole Porter, une comédie musicale américaine mais bâtie autour du music-hall et du monde des cabarets parisiens. Est-ce que Paris c'est une ville aussi magnifique qu'avant, Marco Angeloni?
Oui, parce que je pense que c'est une ville éternelle. On dit ça de Rome,
aussi.
Mais Paris, ça l'est. Ça, je sais pas. Il suffit de juste se retourner, aucun cliché bien sûr, depuis le pont de l'Alma et regarder vers la Tour Eiffel. Et même, il y a évidemment plein d'endroits. En vrai, mon endroit préféré à Paris, c'est le pont Louis-Philippe, qui en gros nous lie à l'île Saint-Louis. Je trouve qu'il y a, je sais pas, une vue le bout de l'île à gauche. Et Notre-Dame juste derrière, c'est assez à pleurer. Et oui, pour moi, c'est tout aussi, même chaque jour, je m'émerveille dans une journée de soleil, bien sûr, quand cela est possible à Paris. Voilà, admirer cette ville qui est juste sublime.
Bon, il y a Paris dans l'album et puis il y a Rome.
Goodbye,
castelli.
Arrivederci, dit Roma, chanson en italien, mais aussi avec quelques mots en français et en anglais. Les qualités pour chanter dans ces trois langues sont-elles les mêmes, Marco Angeloni?
Je dirais que oui, parce que en fait, il faut travailler sa prononciation d'une certaine manière avec des coachs et des fois avec des résultats plus ou moins hétérogènes. Mais
oui. Y compris pour les très très grands chanteurs qui ont des carrières internationales, hein, parfois,
c'est
pas évident. Hein.
Non, et je me rappelle même avoir assisté à un récital d'une très grande cantatrice qui n'est plus parmi nous, donc je ne dirai pas son nom, mais c'est vraiment une des plus grandes sopranos. Qui effectivement, en allemand, j'avais été étonnée, parce que même ne parlons pas beaucoup allemand, j'avais fait un peu quelques années d'études et j'étais un peu étonnée. Donc effectivement, il y a des coachs et voilà, et il faut beaucoup travailler ça, et que ce soit fun ou pas. Moi c'est ce que j'aime quand même de ce qui fait partie de notre métier aussi.
Alors on va se quitter avec un autre tube italien, Come Prima en français. Comme au début, c'est la chanson qui termine l'album. Pourquoi avez-vous voulu terminer par celle-ci?
Parce que je trouve qu'elle a un côté nostalgique, tout l'album en a bien sûr, mais particulier vraiment, c'était une sorte de rêverie, de nostalgie finale, une sorte d'adieu. Alors que bon, l'Arrivederci Roma, en vrai, il est beaucoup plus entraînant et envoûtant, et donc ça me semblait le plus pertinent.
Voilà, énorme tube popularisé par Tony Dallara, repris entre autres par Dalida. Merci beaucoup Marco Angeloni.
Merci beaucoup à vous.
Dolce Vita, l'album est disponible chez Glossa. Et puis deux rendez-vous concerts, me disiez-vous, le 5 juillet en Bourgogne. On ne sait pas exactement où, mais on aura l'info sur votre site internet.
Absolument, elle y est déjà d'ailleurs.
Voilà, votre site internet, vous donnez l'adresse.
Oui, c'est vous, www.marcoangeloni.com.
Voilà, et puis autre concert le 14 septembre à Châteaudun, un festival qui s'appelle Orfeo 28 et qui est co-organisé par Joan Farjo, qui signe donc les arrangements du disque. Merci
Absolument.
Beaucoup.
Merci.
Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancor. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima.
Come prima, Marco Angeloni dans VMDN. C'est jeudi, c'est Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Un café polar consacré aujourd'hui aux écrivaines anglo-saxonnes de romans policiers.
Oui, grâce à un essai qui vient de paraître sous le titre « De l'assassinat considéré comme une affaire de femme » aux éditions Kalman-Lévy. Je vous propose donc de redécouvrir toutes celles qui, en Grande-Bretagne essentiellement, mais aussi aux États-Unis, ont fait les beaux jours du roman policier depuis le 19e siècle. Un panorama grâce à François Rivière, qui vient donc de publier ce livre où il retrace ses lectures et ses rencontres avec les autrices les plus célèbres, de Ruth Rendell à Patricia Highsmith, en passant par P.D. James ou encore Patricia Cornwell.
Ouais, et puis il ne faut pas oublier Agatha Christie quand même, c'est elle la reine du crime britannique, non ?
Vous avez raison Jean-François, c'est bien elle qui reste la plus célèbre d'entre toutes. Mais si François Rivière n'a pas eu la chance de la rencontrer, en revanche c'est bien grâce à elle qu'il est devenu le journaliste, éditeur et écrivain spécialiste du genre, car tout petit, on lui a mis un roman d'Agatha Christie entre les mains, un peu de force, mais depuis, il est devenu incollable sur la romancière. Il a été le premier à publier en France sa biographie de référence sous le titre « La Duchesse de la Mort ». Et comme il l'avoue, sa passion a tourné un peu à l'obsession. François Rivière.
Oui, ça a été pendant un moment, effectivement, presque une obsession littéraire, parce que je trouvais que sa vie était tellement mystérieuse, tellement secrète. Finalement, quand on pense quelqu'un qui a vendu aujourd'hui, bien sûr, avec le temps, plus de 2 milliards et demi presque de livres, qui n'a accordé que 2 ou 3 interviews dans sa vie, quand on voit comment souvent les gens se répandent dans les médias, c'est absolument fabuleux, quoi. Elle a gardé le secret, finalement, notamment sur sa disparition, qui a été un grand moment, enfin un fait divers qui a marqué l'Angleterre à l'époque. Elle est restée très secrète et au fond, elle disait elle-même, si j'écris, c'est parce que j'ai pas envie de parler.
Agatha Christie inspire donc beaucoup François Rivière, Catherine, mais ce n'est pas la seule.
Non, les autrices anglo-saxonnes dont nous parle ici l'écrivain français sont très nombreuses. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est de découvrir celles qui, à leur époque, ont été les pionnières du genre, mais qui ont été oubliées depuis. Par exemple, est-ce que vous savez qui est la toute première ?
Ah, pas du tout.
Eh bien voilà, c'était la grand-mère du roman policier. Elle s'appelait Anna Katharina Green. C'est une Américaine qui, à partir des années 1870, a publié une 40aine de romans. François Rivière nous la présente.
Anna Katharine Green était la fille d'un juriste, d'un grand spécialiste du crime, puisqu'il c'est un personnage qui, à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père, et sans doute influencée par Edgar Poe, mais c'est même pas sûr, a eu l'idée d'écrire, de se lancer en littérature, en publiant des romans qu'on pourrait qualifier de judiciaires, enfin qui étaient en fait déjà des romans policiers, avec un détective, mais pas un détective privé, un vrai détective de la police new-yorkaise qui résolvait des affaires criminelles. Elle en a écrit un très grand nombre, et elle est effectivement considérée comme l'ancêtre du roman policier américain, et par définition même mondial, puisque contrairement à ce qu'on raconte souvent, même si ça ne concerne que les spécialistes, ce n'est pas Émile Gaboriau, donc un Français qui aurait inventé le genre, mais bien en fait cette femme qui écrivait des romans qui étaient déjà comme aujourd'hui des romans policiers.
Alors on le sait, hein, le genre du roman policier a beaucoup fleuri en Grande-Bretagne, mais toutes les autrices ne se ressemblent pas non plus. Qu'est-ce qu'Agatha Christie, Ruth Rendell ou P.D. James ont en commun, Catherine ?
Eh bien, d'après François Rivière, ce sont pour commencer des femmes qui n'ont pas eu la vie facile avant de devenir des autrices à succès. Agatha Christie, par exemple, a été quittée et humiliée par son premier mari qui l'a trompée. C'est pour cette raison qu'elle a sans doute mis en scène sa disparition dont parlait il y a un instant François Rivière. Une disparition pendant une semaine en 1926 qui avait fait la une de tous les journaux anglais. Ruth Rendell, elle, venait d'un milieu très modeste où elle ne mangeait pas tous les jours à sa faim et la route a été longue avant de publier ses premiers romans. Quant à P.D. James, elle a dû s'occuper de son mari qui souffrait de problèmes psychiatrique. Alors, autre point commun, leur source d'intérêt, souvent, ce sont les vrais faits divers et les procès retentissants qui les inspirent. Et enfin, elles abordent le crime toujours par le biais humain du coupable. Une plongée sociologique et psychologique dans la tête du meurtrier, François Rivière.
Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, enfin, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre, pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de la manière dont ils étaient venus au monde et dont ils avaient été éduqués ou pas éduqués, etc. Soit pour une envie un peu méchante, pour se venger d'une humanité qu'ils n'appréciaient pas trop. Il y a toujours eu cette envie chez ces femmes de créer des situations, enfin, d'essayer de voir comment elles-mêmes elles réagiraient dans des cas où elles seraient amenées à commettre le mal. Enfin, même si, alors là, je vais prendre un exemple qui est terrifiant, c'est celui de Anne Perry, qui elle-même a commis un crime enfin, avec sa meilleure amie, et tout ça quand elles étaient encore adolescentes, où elles ont tué la mère de cet ami. Enfin, Anne Perry, qui ne s'appelait pas Anne Perry, bien sûr, a fait 5 ans de prison avant de refaire sa vie, et en devenant un auteur qui a été lu énormément. Elle a trouvé curieusement quand même une manière de sortir de son drame personnel à travers la littérature policière, un peu comme si, au fond, elle ne pouvait pas y échapper.
Alors là, j'ignorais complètement Anne Perry. C'est vrai que c'est un cas de figure extrêmement spécial. On a envie d'en savoir plus. Catherine, comment elle a été mêlée comme ça à une affaire d'assassinat ?
Oui, c'est une histoire terrible qui s'est déroulée dans les années 50 en Nouvelle-Zélande. Anne Perry, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avait 15 ans. Et elle a été accusée de complicité dans le meurtre avec son amie. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Et plus tard, elle est donc devenue cette autrice prolifique de romans policiers historiques. J'avais eu la chance de la rencontrer en 2015. Et je lui avais demandé si cette tragédie avait impacté son écriture. Anne Perry.
Peut-être, mais en tout cas, lorsque on se met complètement à l'intérieur des choses, on devient aussi moins rapide à juger.
Est-ce qu'il y a quand même une révolte dans vos livres ?
Oui, absolument. Hein. Je veux que les gens réfléchissent, en fait. Hein. Lorsque les gens jugent hâtivement, ça me rend absolument furieuse. Je veux que les gens réalisent que les autres sont tout aussi humains qu'eux et qu'ils n'ont peut-être pas eu le même chemin.
Revenons à présent, Catherine, à l'essai de François Rivière. Le fil conducteur du livre, c'est clairement Ruth Rendell.
Oui, autrice prolifique, s'il en est, plus de 60 romans, certains sous son nom et d'autres sous pseudonyme. Une écrivaine disparue en 2015 qui reste associée au genre policier. Même s'il faut le reconnaître, c'est un peu par hasard qu'elle commence sa carrière dans ce genre. François Rivière.
Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage... L'inspecteur Wexford, qui était donc un personnage de policier d'une ville de province qui mène des enquêtes. Bon, déjà, avec ce personnage a un visage un peu différent des inspecteurs de police classiques, aimant la littérature, s'intéressant à beaucoup de choses, etc. Et puis surtout, elle a publié son premier roman en 64, mais 10 ans après, elle a publié un roman qui s'appelle « Vera va mourir » en français, qui est l'histoire de la dernière femme à avoir été pendue en Angleterre, bon, qui est une étude psychologique absolument fabuleuse, enfin, avec tout un ensemble de personnages. Et ça a été le premier d'une série qu'elle a signée d'un pseudonyme, le pseudonyme de Barbara Vine, mais qui n'a pas été retenu en France, malheureusement, ce qui fait que les deux parties de son œuvre se mélangent un peu de ce côté de la Manche. Ce sont des romans dans lesquels, parce qu'il y a beaucoup à dire, sa vie, son autobiographie... se déverse d'une manière très subtile, c'est-à-dire qu'en concevant des intrigues extrêmement fortes qui ne sont pas vraiment des intrigues de romans policiers. Enfin bon, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel, parce qu'elle y a mis évidemment beaucoup d'elle-même. Il n'y a pas de côté... Enfin, je ne dis pas que le roman policier est souvent fabriqué, mais il l'est quand même parfois. Et on a beaucoup de recettes. Elle n'utilise pas de recettes. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir qui a pris la forme de la littérature dite policière, de ce qu'on appelle le suspense psychologique. Mais ça va bien au-delà.
Ruth Rendell, qu'il faut donc appeler Lady Ruth Rendell, puisqu'elle a été anoblie par la reine d'Angleterre, Catherine.
Oui, et c'est un titre qu'elle a pris très au sérieux, car si dans son œuvre, elle abordait déjà des questions sociétales et politiques, là, elle a pu pleinement s'engager comme féministe, ce que rappelle François Rivière.
Elle était extrêmement féministe. Elle était non seulement féministe, mais elle s'est engagée du côté des travaillistes à maintes reprises. Et puis surtout, quand elle a été anoblie par la reine dans les années 90, donc elle a été fait baronne et elle est devenue pair du royaume, donc elle a été amenée à siéger à la Chambre des Lords. Elle s'est investie, notamment dans la cause des femmes immigrées. Elle a fait voter, enfin elle et puis un ensemble de gens ont fait voter une loi contre l'excision des femmes. Elle a vraiment eu un engagement réel, hein, en dehors du fait de se manifester depuis longtemps pour la cause féministe, tout en prenant même aussi, par moments, en exprimant des réserves sur certaines choses un peu qui l'agaçaient beaucoup. Elle était assez intransigeante, mais elle a profité de sa célébrité, puisqu'elle est quand même devenue très célèbre à partir d'un moment, à égalité avec Petey James, qui était l'autre baronne, mais qui, elle, était du côté conservateur. Donc, c'est intéressant d'avoir eu ces deux personnages comme ça, qui étaient quand même très amis, malgré tout, mais qui avaient des idées complètement différentes.
Voilà quelques exemples d'autrices racontées et rencontrées par François Rivière, des portraits que l'on retrouve dans son essai, dont je vous rappelle le titre, De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, publié aux éditions Kalman-Lévy. Et si vous voulez en savoir plus, l'intégralité de cet entretien avec l'auteur est disponible sur la page du podcast Café Polar.
Et vous nous parlerez d'un autre polar demain, cette fois-ci dans Littérature sans frontières, Catherine.
Oui, parce que je reçois l'écrivain américain S.A. Cosby, dont le troisième roman noir vient de paraître en français sous le titre Le sang des innocents. Alors, c'est à la fois un polar avec une enquête pour retrouver le meurtrier en série de plusieurs adolescents noirs, mais surtout le tableau d'une Amérique où les tensions et les violences racistes perdurent. Même si ici, c'est un shérif noir qui va tenter d'y mettre fin, c'est absolument remarquable. Et vous, Jean-François ?
Eh bien, nous recevrons une jeune plasticienne franco-camerounaise, Roxane Banga. Elle expose en ce moment une petite partie de sa maison idéale. Juste le salon et la salle de bain, ça se passe à la Fondation H à Paris. Rendez-vous donc demain. On va se quitter avec un titre de la playlist RFI d'Abia de Djemba Groove dans VMDN. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI, le journal en français facile, bien sûr, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.